Vendredi 4 octobre 2019, vous êtes en direct sur le studio Kalangou. Il est 18h, l'heure du journal en français. Messieurs, dames, bonsoir. Au sommaire de ce journal, plus de 1800 élèves manquent de classe sur un effectif de plus de 3000 élèves des écoles Missirata d'Agadez suite aux dernières inondations. Les détails dans ce journal. Également dans cette édition, les recommandations des travaux du Forum sur la gestion des ressources naturelles organisé par l'Université de Diffa avec l'appui du Programme de développement de l'agriculture familiale, recommandations en direction des autorités administratives et politiques de Diffa. L'hyperandrogénie, c'est de cela qu'il s'agira ce soir dans la partie magazine du journal. Un spécialiste vous permettra de découvrir la maladie. Bienvenue à tous. Plus de 1800 élèves manquent de classe sur un effectif de 3350 élèves des écoles Missirata d'Agadez suite aux dernières inondations. À cet effet, le comité de gestion des établissements COGES a tenu une réunion d'urgence mercredi à Agadez pour rappeler les parents à l'aide et aussi lancer un cri d'alarme à l'État et aux partenaires de l'école. Sani Hiro, président du COGES des écoles Missirata 1, 2, 3, 4, au micro de Moussa Maman.
Actuellement, on doit avoir 40 à 41 classes qui sont endommagées et qui sont même seront réprises définitivement. Tant que parents d'élèves, vraiment, vous savez que les parents n'ont pas sciemment de moyens. Ce que les parents vont nous remettre, il ne va pas suffire. Ça ne peut même pas faire un dixième de ce qu'on a besoin. On a au moins 1800 élèves qui n'ont pas de classe, qui sont là, qui traînent jusqu'à présent, sur l'effectif de 3350 élèves. Je laisse un appel à l'État, aux bailleurs de fonds, vraiment de faire un effort très rapidement. Il y a du froid qui vient et du vent. Donc, on ne peut pas continuer à laisser les gens dehors traîner. On a demandé aux parents, à part les cotisations de 2000 francs par élève, donc en dehors de ça, on a demandé à ceux que tous ceux qui ont des possibilités de nous aider en matériaux, que ce soit en chaume, en natte, en fourche, les piquets, donc, les traverses, les briques, les bancos. Vraiment, on en a besoin.
Une dizaine de clubs verts des agents de l'Institut de recherche et de développement IRD ainsi que les représentants du ministère nigérien de l'Environnement se sont réunis hier à Niamey pour échanger des échanges autour de certaines thématiques liées à la gestion des déchets plastiques et de l'assainissement notamment. Ainsi, c'est Abdoul Salimi, directeur général de l'Oasis des entrepreneurs, explique le but de cette rencontre.
Aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter avec des jeunes du collège et des lycées à travers les clubs verts qui ont été mis en place pour savoir en fait comment ils perçoivent la problématique liée à l'assainissement et aux déchets plastiques et quelles sont les actions que eux-mêmes ils ont prises en compte pour rentrer dans ce cadre-là.
Alors, des actions peut-être envisagées ou des actions déjà qu'ils mènent dans ce cadre?
Alors, il y a les deux, puisque c'est des clubs qui ont déjà été sensibilisés, avec qui on a eu d'autres activités. On profite pour discuter de qu'est-ce qui a été fait comme sensibilisation avant et aujourd'hui, qu'est-ce qui est visé comme activité à venir. Voilà, faire venir tous ceux qui sont nos partenaires et à la fois du gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, de l'IRD et qui vont parler en fait de quelles sont les actions qu'ils mènent eux en tant que structure et institution étatique sur le terrain et d'autre part, quels sont ce que les jeunes, eux, ils attendent comme action par rapport à ça.
Fin jeudi à Diffa, des travaux du Forum international sur la gestion des ressources naturelles, forum organisé par l'Université de Diffa avec l'appui du Programme de développement de l'agriculture familiale. Les acteurs de l'environnement des universités du Niger, du Bénin et du Burkina Faso ont formulé des recommandations aux autorités administratives et politiques de Diffa. Le résumé avec Ali Mahaman, recteur de l'Université de Diffa, joint au téléphone par Adama Dawaki.
Il y a beaucoup de textes en vigueur relativement à la gestion de ces ressources naturelles. Donc, les participants ont encouragé l'application de ces textes. Aussi, c'est de prendre des dispositions pour réduire l'accaparement des couloirs de pâturage et des aires de pâturage dans toute la région de Diffa. L'implication des partenaires techniques pour soutenir les autorités administratives et coutumières pour mener des campagnes de sensibilisation, des synergies entre les acteurs pour bien comprendre le fonctionnement du milieu en fonction du type de milieu pour assurer une gestion durable ou la bonne gouvernance. Les producteurs ont émis le vœu de disposer des panneaux solaires et permettre le pompage pour avoir de l'eau. Il ne faut pas que tous les détails se retrouvent autour des points d'eau naturels tels que les mares, tels que la rivière Komadougou. Ils peuvent s'exposer aussi à des dangers.
Sensibiliser tous les acteurs à la faisabilité d'un master professionnel sur la ville durable, c'est l'objectif du séminaire qu'organise en ce moment à Niamey le département de géographie de l'université Abdou Moumouni en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement IRD à la faculté des lettres et des sciences humaines. Selon professeur Mocho Henri Okoku de l'université de Niamey, plusieurs thèmes tels que l'urbanisation du Niger, la gestion des villes et le changement climatique seront développés. Les taux micro de Moussa Hassan.
On va d'abord leur montrer la nécessité d'aller vers la durabilité de nos villes. Il y a un certain nombre de communications qui vont être effectuées aujourd'hui, donc un certain nombre de thèmes tels que l'urbanisation du Niger et de Niamey. Il y a le changement climatique. Il y aura aussi une intervention sur la gestion de la ville avec le président de la délégation spéciale de Niamey. Une intervention sur qu'est-ce qu'on entend par la ville durable et des témoignages de ceux qui œuvrent pour diminuer l'impact de l'urbanisation sur le climat et le changement climatique. Dans la deuxième partie, nous allons voir les technologies qu'on peut mobiliser, telles que la cartographie automatique, l'utilisation des drones, pour pouvoir surveiller l'impact que la ville peut avoir sur le climat et son environnement. Et lundi, nous devons clôturer le dossier que nous allons envoyer à l'Union européenne.
Au cours de cette année 2019, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Niger, Alcia, a enregistré et traité plus de 180 plaintes et dénonciations diverses. Les conclusions de la Alcia sur l'édition du permis biométrique, les fraudes des hydrocarbures et le concours de recrutement des agents d'enrôlement biométrique pour le compte de la CENI avec Raïlato Soumana.
Selon le communiqué à propos du permis de conduire biométrique, après audition des parties prenantes, les enquêtes ont révélé des fautes administratives et des indices graves d'infraction à la loi pénale à certains responsables administratifs. Selon l'organe permanent de lutte contre la corruption, le rapport a conclu à l'existence d'un conflit d'intérêts concernant le partenaire local titulaire de la concession qui serait un parent proche du ministre des Transports. Le communiqué de la Alcia a aussi fait cas du dossier sur l'exportation d'hydrocarbures vers le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria en 2017 et pendant la période de mars à mai 2018. L'opération consistait à reverser au Niger un prix préférentiel et hors taxe. Plus de 150 opérateurs économiques auraient pratiqué ces prix qui ont engendré un manque à gagner équivalent à plus de 10 milliards 180 millions de francs CFA au Trésor public et à la Société des hydrocarbures Sonidep. Quant au recrutement des agents d'enrôlement biométrique pour le compte de la CENI, la Alcia n'a révélé aucune irrégularité. Toutefois, les rapports des deux dossiers cités plus haut ont été transmis au président de la République et au procureur de la République, précise le communiqué.
Les journalistes et défenseurs de la liberté de la presse participant au Festival international de la liberté d'expression et de presse à Philippe de Ouagadougou ont réitéré vendredi dernier le rappel de l'édition 2017 du FINLEP. C'est l'extradition de François Compaoré contre qui un mandat d'arrêt international a été lancé pour son inculpation dans l'affaire assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1990. À Sapui, au Burkina Faso. Ils appellent le président français Emmanuel Macron à tenir sa promesse en prenant dans les plus brefs délais l'acte d'extradition de François Compaoré à Ouagadougou en vue de répondre devant la justice burkinabé. La France cherche à convaincre ses partenaires européens d'envoyer des forces spéciales au Sahel pour fournir des mentors aux armées nationales, rapporte une dépêche de l'AFP. Pour Paris, dont l'armée est présente au Sahel depuis 2013, la montée en puissance des armées maliennes, nigériennes et burkinabées est un préalable à terme à tout début d'engagement militaire français, précise la dépêche. Par ailleurs, depuis le 13 septembre dernier, les soldats français de l'opération Barkhane ont installé une nouvelle base à Djibo dans la région du Sahel au Burkina Faso, à 70 km de la frontière avec le Mali, nous apprend le journal en ligne Nord-Sud de ce 3 octobre. L'Agence française de développement a clôturé par une cérémonie le 3 octobre 2019 à Zender les 60 ans de coopération avec le Niger. Selon le communiqué de l'Institut, le Centre culturel franco-nigérien CCFN de Zender a servi de cadre à une exposition photographique retraçant ces 6 dernières décennies d'activité suivie d'une conférence débat. La région du lac Tchad face à Boko Haram. Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de tous à la FADA. Et
Studio Kalangu, au rythme du Niger.
La partie magazine de ce journal à présent, l'hyperandrogénie est définie par les spécialistes de la santé comme un excès d'hormones sexuelles mâles chez la femme. Elle fait développer chez la femme des caractères sexuels secondaires masculins. Cependant, cette maladie présente chez des athlètes féminins est incurable selon Dr Hamma Idrissa, médecin de sport de la Fédération nigérienne de football, interrogé par Nafisa Adamu Sirfo.
Diagnostiquée chez la femme, l'hyperandrogénie qui se caractérise par une production anormale d'hormones masculines peut bien être traitée selon Dr Hamma Idrissa, médecin de sport.
Chez les femmes qui sont atteintes de cette pathologie, l'hypersécrétion de la testostérone fait développer les caractères sexuels secondaires masculins, donc se caractérise par un développement des muscles comme un garçon, une disparition ou une anomalie des cycles menstruels, l'apparition des poils, des cheveux de façon inappropriée. Parfois, on peut avoir chez certaines femmes le manque de cheveux au niveau de la tête. Le caractère le plus marquant, c'est la roussité de la voix qui ressemble à des voix de garçons.
Comme vous venez de le dire, il y a absence de règles. Donc, la femme ne peut pas enfanter.
Bien sûr que ça préoccupe parce que la femme peut ne pas concevoir dans cette période si on ne traite pas, bien sûr, la maladie. Mais néanmoins, on peut traiter bel et bien ces genres de pathologies. Du coup, après traitement, on peut aspirer à la fécondation et ou à une éventuelle grossesse chez ces genres de femmes.
Comment traiter cette maladie?
Il y a des médicaments qu'on appelle les anti-androgènes. En général, c'est l'androcure qu'on injecte à ces patients. Et après un suivi, on essaie de doser un peu la testostérone parce que dans la circulation, on a une augmentation exagérée de la testostérone. Et le fait de faire des injections d'anti-androgènes, ça permet de baisser ce taux de testostérone jusqu'à des proportions normales qui ne sont pas nuisible par rapport à tout ce qui est activité génitale féminine.
À partir de quel âge peut-on savoir qu'une fille a ses traits d'hyperandrogénie?
L'hyperandrogénie n'a pas d'âge. Néanmoins, on peut trouver cette hyperandrogénie chez des adolescentes. Et cette hyperandrogénie en matière de sport, ça donne des avantages à ces athlètes féminins. Beaucoup plus de performances, bien sûr. Du coup, c'est ça qui fait que les organisateurs pensent peut-être qu'il faut essayer d'équilibrer un peu la situation pour que les athlètes soient au même niveau. Mais c'est un avantage que la nature a offert à ces bonnes dames. Donc, du coup, ils doivent profiter, bien sûr, de ce que la nature les a offert. Il revient alors au Comité international olympique en concertation avec l'ensemble des médecins de sport pour tirer la conclusion. Est-ce que, parce que la femme, de façon inappropriée, sécrète ses hormones, est-ce que c'est une raison pour l'éliminer de ses compétitions?
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Place à présent au Forum de la presse, présenté ce soir par Alassane Kouzi Mahamadou.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.